Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce footpod de consacré aux journées 2 et 3 des poules de l'UEFA Euro 2020 TM. L'Euro 2020 qui se déroule en 2021. N'est-ce pas Yann, tu es heureux de parler de ces deux journées?
Moi je dis juste que pour des raisons de marketing, j'ai décidé de conserver le nom Yann entre 2020 et 2021.
Yann TM. Voilà. Et tu vas copyrighter toutes tes phrases, hein. Donc,
Oui. TM.
Y compris, donc, les phrases que tu vas prononcer, pour les matchs du groupe A. Bon, on va rappeler les résultats. Donc, Turquie, Pays de Galles. Le Pays de Galles l'emporte 2-0 au but de Ramsey et Roberts. L'Italie, devant le même temps, tapait la Suisse 3-0. Deux fois Locatelli et Immobile. Puis, donc, Italie-Pays de Galles nous offre une victoire 1-0 des Italiens sur la but de Pessina, tandis que la Suisse va taper la Turquie 3-1 avec des buts de Seferovic et doublé de Shaqiri et Kavici, je sais pas comment on prononce en turc ce nom, désolé, qui avait donc réduit la marque, ramené le score à 2-1, mais bon, voilà. Et ce qui nous donne, au final, ben l'Italie première du groupe avec 9 points, 7 buts marqués, 0 encaissés, suivi du Pays de Galles 4 points qui devance donc au goal average la Suisse 4 points qui est néanmoins qualifié pour la suite. Et donc la Turquie ben s'en va avec 0 points, un seul but marqué, 8 encaissés. Je me souviens qu'on avait légèrement évoqué la possibilité que les Turcs pouvaient jouer les troubles faites. Ben ils ont pas joué les troubles faites, hein. Ils nous ont fait une Dijon 2020-2021 en Ligue 1. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a pris des points contre eux.
Ouais. Honnêtement, je pensais vraiment que les Turcs allaient se réveiller.
Ben surtout, je pensais finalement pas que le Pays de Galles arriverait à se hisser à la deuxième place. Hein. On était parti sur une Italie, oui. Italie première, Suisse deuxième, et la troisième place se joue entre les Turcs et les Gallois. Et puis ben non. Après voilà.
Les Suisses en même temps, c'est-à-dire que les Suisses n'ont pas battu les Gallois.
Oui, c'est un bon match nul. Mais j'étais en train de, c'était quand même un groupe ben d'un niveau assez faible. Donc c'est vrai que l'Italie elle a été assez plaisante sur ces trois matchs. D'ailleurs c'est probablement je pense la seule équipe qui a été régulière à un bon niveau. Maintenant, l'opposition a été quand même assez faible.
Plutôt faible, je suis d'accord avec
que
toi.
Ça, alors, moi, pour les trois pays, hein, je veux dire, on peut pas vraiment dire que le Pays de Galles ou la Suisse a été vraiment beaucoup plus. Enfin, qu'il y en ait un qui était plus fort que l'autre,
je
mais.
Suis d'accord avec toi.
Après, mais l'Italie a vraiment un style de jeu. Elle a une. Ils sont en place. Ils sont bien en place. Ils jouent bien. C'est intéressant à voir et j'espère qu'ils vont aller assez loin, hein. pas au bout, hein, parce que c'est pour nous, hein, le bout, mais c'est l'équipe où je trouve peut-être l'équipe la plus plaisante à avoir vu jouer de tous les groupes, donc
ouais, après bon, contre les Gallois je les ai sentis un peu tranquille ou bilou, quoi, mais en même temps ils avaient 6 points, ils étaient qualifiés, hein.
Puis,
c'est la première place assurée vu les scores
tirés. Il avait fait 8 changements, hein, quand même, le coach, hein, lui. Il s'est rappelé qu'il avait un groupe de 26 joueurs, contrairement à Didier Deschamps.
Y compris en faisant entrer le gardien remplaçant.
Oui, non, mais donc c'est ça, il a fait tourner, moi, il était qualifié, donc. Mais même j'ai envie, comme on dit, les coiffeurs, hein, italiens, ils se sont imposés, donc ils ont quand même fait le job. Même si,
oui,
niveau coiffeur, je rappelle que le passeur, c'est quand même Verratti. Mais bon, c'est vrai que Verratti, revenant de blessure, c'était surtout un match pour lui remettre du rythme dans les jambes. En
oui.
Espérant qu'il se reblesse
après,
pas.
Si tu veux, voilà, il était qualifié après deux journées. Il était qualifié, mais c'était l'Italie-Pays de Galles, le dernier match. Hein, donc, il y avait 6 points pour l'Italie, 4 points pour le Pays de Galles. Je pouvais te dire que les Gallois pouvaient faire une surprise, bon, cela dit. Les Italiens ont fait le job. J'attends de les voir contre des vraies oppositions, mais on en reviendra quand on aura des huitièmes, mais c'est pas pour tout de suite.
Avec tout le respect. Comment ça, il faut protéger les gros?
voilà.
Donc du coup, ouais, du coup on va passer au groupe B, celui qui accueille les vrais champions du monde, qui donc jouaient contre le Danemark à Copenhague et se sont imposés 2-1, but de Hazard, mais pas Eden, De Bruyne et Poulsen avaient ouvert la marque à la deuxième minute de jeu. Dans le même temps, la Russie s'imposait 1-0 face à la Finlande avec un but de Mirantchuk. Et dans la dernière journée, le Danemark a été explosé, la Russie 4-1. Donc avec des buts de Damsgaard, Poulsen, Christensen et Maël, je ne sais pas prononcer ce nom en danois. Tandis que Zubia avait réduit le score sur penalty. Et dans le dernier match du groupe, la Belgique a fait le job contre la Finlande 2-0, but de contre son camp de Radecki et Lukaku, l'inévitable Romelu Lukaku. Et donc ça nous donne les Belges qui sont à 9 points, et le Danemark, la Finlande, la Russie à égalité à 3 points. Ça se joue à différence de but, et c'est le Danemark qui empoche la seconde place, et la Finlande qui... a fini troisième, et c'est la petite surprise, mais malheureusement, ils iront pas en huitième. Ils font partie
non, ils ont une différence
deux...
de but qui est trop mauvaise, voilà. Mais ils en ont pris un de trop contre les Belges. Mais, et ils en ont pas, enfin, ici, ils en ont marqué un contre les Danois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne surprise. La Finlande, la Russie, une immense déception. Je les voyais pas premier du groupe, mais je les voyais deuxième.
Quelque part, je sais pas d'où on se dit la Russie, grande équipe, même à leur propre Coupe du Monde en 2018, franchement, sans l'aide arbitrale, ils auraient pas fait mieux dans leur groupe, hein.
Ouais.
C'est vraiment une équipe qui, pour moi, est survendue un peu comme les Turcs, en fait. Voilà. Après, bon, bah, le Danemark, c'est toujours aussi passionnant à avoir joué. Mais ils ont le mérite d'avoir été chercher à deuxième place. Enfin, faut pas oublier quand même les circonstances de leur premier match, hein, avec la crise cardiaque
d'Eriksen.
D'Eriksen. Donc voilà, on a senti que déjà contre la Belgique, ils avaient vraiment bien emmerdé les Belges, hein, soyons clairs. Et ben voilà, après derrière la Russie, ils ont fait le job, hein, malgré ou grâce à l'arbitrage de Clément Turpin. Je dois dire que Russie-Danemark, je ne l'ai pas regardé. Hein. Et attends, et doublé, hein. Clément Turpin, arbitre central, et à la vidéo, François Le Texier, s'il te plaît.
Qui sont les arbitres préférés du FC Metz?
Ah bah Turpin, oui, il est... Turpin, c'est aléatoire. Hein. Il y a des fois, il nous arbitre correctement, hein, je vais dire neutre. Et il y a des fois, ben non. Et bah c'est un peu comme les Belges, hein. Il y a des fois c'est plaisant à voir jouer et des fois bah non. Et tu vois, du coup j'ai trouvé l'Italie beaucoup plus régulière dans le bon niveau sur ces trois matchs que les Belges. Il y avait vraiment, c'était vraiment sur courant alternatif même au sein même des matchs.
Ouais, mais après est-ce qu'ils ont pas pris de haut les Finlandais en dernier match par exemple?
Ouais, moi, ils étaient qualifiés, aussi, ils avaient la première place assurée.
Oui, là aussi, ça. L'opposition était plutôt faiblarde quand même. Les Russes, qui étaient une déception pour moi. Derrière, bah, le Danemark, qui attendait de faire du Danemark, mais qui était pas dedans. Je sais pas.
Non, c'est après. Ouais, voilà. La Belgique, j'aimerais la voir sans Lukaku. Voilà. Je suis pas sûr que ça devrait. Ils sont vraiment devenus Lukaku dépendants. C'est quand même dingue quand tu penses qu'il y a 4 ou 5 ans, tout le monde est en train de le brûler sur la place publique. Et maintenant, c'est devenu le serial buteur de la sélection. Donc, voilà. Bon, groupe C. Alors, le groupe C nous voit une victoire de l'Ukraine avec des buts de Yarmolenko et Larenchuk.
Enfin, des vraies oppositions
contre la Macédoine du Nord, hein, ils se sont donc imposés 2-1. Alioski donc avait réduit le score pour la Macédoine du Nord, tandis que les Pays-Bas se sont imposés 2-0 face à l'Autriche avec un petit but de Memphis Depay et Dumfries contre aucun but autrichien. Et deux pailles récidives lors de l'affrontement contre la Macédoine du Nord, et suivi d'un doublé de Wijnaldum. Et les journalistes lui ont demandé hein, comment il se prononçait son nom, et c'est du hollandais, et c'est, on va l'appeler Jorginho, hein. Franchement, ce sera plus simple, sur son petit prénom. Tandis que, ben, dans le même temps, l'Autriche, s'imposait 1-0 contre l'Ukraine, dans le fabuleux stade de Bucarest, qui accueillait, 6 supporters français en perdition.
Oui.
Attends, c'est dégueulasse. On va jouer notre 8e à Bucarest. C'est con, ils vont se retrouver à Budapest, je le sens. On a joué 2 matchs à Budapest. Ils vont se confondre. Bref, on y reviendra. Et ça donne donc les Pays-Bas qui s'en sortent donc avec 9 points sur 9. Deuxième, Autriche, 6 points. Troisième, l'Ukraine, 3 points. Et faisant partie des 4 meilleurs 3e des 6 groupes. Avec seulement 3 points. C'est-à-dire du Portugal. Et la Macédoine du Nord, bah, comme on l'avait déjà dit au pressant footpod, hein, ils avaient déjà réussi leur euro, puisqu'ils avaient déjà, un, participé à l'euro, 2, marqué un but à l'euro. Et là, ils en ont même récidivé. Hein. Ils ont marqué un deuxième. Donc
mais,
pour eux...
Mais tu vois, l'Autriche qui bat l'Ukraine, c'est une petite surprise. Bon, pas que l'Ukraine est bonne en attaque, pas bonne en défense. Mais moi, je trouve que c'est une petite surprise.
Bah, après... L'Ukraine, le rendement dépend surtout de Yarmolenko, hein. C'est un joueur qui est assez impressionnant, mais voilà, c'est sûr que les matchs où il est moins bien, ben l'Ukraine elle est moins bien, hein, voilà.
Il y a Yarmolenko aussi.
Oui. Oui, non mais c'est surtout Yarmolenko qui tient vraiment l'équipe. Après oui, Yarmolenko qui il est là, ils ont d'autres bons joueurs, hein, mais tu sens que c'est Yarmolenko qui est vraiment le toute comparaison le Zidane de l'Ukraine quoi. Enfin voilà, tu retirais Zidane de l'équipe 98-2000, c'était pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas Raymond Domenech? Hein, enfin, c'est-à-dire que quand tu joues le dernier quart d'heure sans Zidane, c'est pas la même chose que quand tu joues les 105 premières minutes avec Zidane. Mais là, non, c'est logique, finalement, dans l'ordre des points. Un premier à 9, un deuxième à 6, un troisième à 3. On est dans la logique pure et simple, hein, de ce groupe-là. Et ben, là encore, ben, les Pays-Bas, ils ont fait le job, ils ont bien joué, mais vu l'opposition, on aurait quand même pu s'attendre. Par exemple, au premier match, ils mènent 2-0, et ils se font reprendre en moins de 5 minutes à 2 partout, et ils arrachent la victoire en fin de match. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas
vois l'idée.
C'est pas un rouleau compresseur non plus, mais attention, ça joue bien.
Ouais, ça joue bien et je pense que ça monte en puissance.
Oui, puis contrairement à l'Ukraine, les Pays-Bas ont plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence, voilà. Depay, il apporte beaucoup. Wijnaldum, il est aussi assez impressionnant. Donc, encore après, derrière, c'est des joueurs qui sont pas en train de dormir, comme De Jong, ça peut, ou même le De Ligt qui s'est un peu repris, mais c'est pas le De Ligt d'il y a 3 ans, hein, ça c'est sûr. Mais si tu te dis un jour, ce mec-là, il retrouve son niveau, la défense des Pays-Bas, ça risque d'être compliqué à jouer, hein. Donc, on verra bien en 8e. Mais en attendant, on va aller faire un tour à Londres et à Glasgow, qui accueillent les matchs du groupe D. Et la Croatie et la Tchéquie se sont séparés sur un match nul, Perisic et Schick. Tandis que l'Angleterre faisait 0-0 contre l'Écosse, dans le match peut-être le plus somnifère de la compétition.
Heureusement. J'ai pas trouvé.
On va y revenir, hein. Je finis le tableau des scores, hein. L'Angleterre s'est rattrapée en battant 1-0 la Tchéquie avec un but de Sterling à la 12e, tandis que l'Écosse, malheureusement, malgré son courage, s'inclinait 3-1 contre la Croatie, qui semblait s'être réveillée en deuxième mi-temps. Même si Vlasic avait marqué à la 17e, c'est Modric et Perisic qui font la différence à 62e et 77e. contre un but de McGregor, ce qui nous donne ben, l'Angleterre qui finit en tête avec 7 points, devant la Croatie 4, la Tchéquie 4 qui passe comme meilleur troisième, ben, comme un des 4 meilleurs troisièmes, et l'Écosse qui ferme la marche avec un petit point. Et voilà, c'est trop limité le niveau écossais, mais ils avaient le cœur, ils avaient l'envie, ils avaient la détermination, et c'est assez con qu'ils aient pas, hein, par exemple, comme le Pays de Galles, un Gareth Bale, qu'ils aient un joueur vraiment ouais. au-dessus du lot, et je pense qu'ils auraient pu aller chercher une qualif en huitième. Parce que, voilà. Je veux pas être méchant avec la Tchéquie, mais j'ai préféré voir l'Écosse jouer, hein.
Bah, l'Écosse, tu vois, enfin, peu importe leur petit niveau, ils jouaient vers l'avant. Ils jouaient pas à 10 derrière. J'ai trouvé que, au milieu de terrain, vu le niveau des Écossais, c'était assez solide, en fait. Bon, contre la Croatie, ça a pris l'eau. Je pense que les gars, ils étaient cuits, ils ont fait des grosses saisons et ils étaient cuits.
Ah, et puis t'as Modric qui s'est réveillé.
Surtout en première ligue et en championship.
Mmh. Et puis là, dans deuxième mi-temps du match, vraiment Modric qui s'est réveillé. Hein. T'as retrouvé un vrai Modric qui était absent jusque-là. Hein. Soyons clairs, il a traversé les deux premiers matchs. Tu dis, ah merde, il a quand même été ballon d'or il y a 3 ans, ce mec. C'est... Ah ouais. Ah. Non, là, il s'est réveillé. Il a été quand même impressionnant sur la deuxième mi-temps. Oui, ça allait trop vite. Et comme tu dis, oui, voilà, les efforts écossais ont probablement été trop importants. Mais finalement, les 4 issus de la Ligue des Nations, c'était 4 petits, ben, ils ont pas été si ridicules que ça, hein. Hein. Bah l'Écosse voilà était plaisante à jouer même si elle finit bon ils finissent tous derniers non la Finlande vient aussi de la Ligue des Nations
la Finlande
ça. Oui ouais. La Finlande est passée bon la Macédoine du Nord et voilà mais la Hongrie est pas passée très très loin de l'exploit et on va le voir un peu plus tard mais donc oui ils ont pas été on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient complètement ridicules et bah ils ont pas été si ridicules que ça la Macédoine du Nord elle a pas pris l'eau de tous les côtés non plus, hein. Même si, bon, bah, comme l'Écosse, tu vois que techniquement, tactiquement, ils ont pas le niveau. Hein.
Après, ce que j'ai aimé aussi dans ces équipes-là, si tu veux, bon, alors la Macédoine du Nord, tu joues l'Autriche et l'Ukraine, c'est quand même pas des mastodontes non plus. Bon, tu dois perdre hein, quand t'es la Macédoine normalement. Mais voilà, je trouve que les Pays-Bas, par exemple, ont respecté leur adversaire. Je trouve que les Anglais sont arrivés de haut contre les Écossais et ça s'est vu.
Ils sont passés à travers en fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'était soporifique parce qu'en fait, ils jouaient pas hein, vers l'avant dans la profondeur comme ils savent le faire et on a eu rebelote contre la Tchéquie. Ça a été des matchs.
Les Anglais ont pas été bons. Ils ont marqué 2 buts en 3 matchs.
Niveau scoring, on n'est pas mieux. Mais après, voilà, ils en prennent pas. Hein. Ils ont fait le job et on va dire ça, mais ils ont pas été bons. Hein. Ils se font démonter par la presse anglaise. Hein. Justement, tu peux t'attendre à un meilleur niveau de jeu. Le problème, c'est qu'ils ont trop de joueurs qui sont à côté de la plaque. En fait, Harry Kane, il est complètement à côté de la plaque. Rashford, il est transparent. Sterling, il est transparent. Foden, il est sur courant alternatif. Voilà. Donc toutes leurs armes fortes, offensives, sont pas au top, donc,
C'est Sterling qui marque à chaque fois, non?
Oui, les 2 buts, c'est Sterling. Mais, tu pouvais t'attendre mieux de cette attaque, quoi, avec Sterling, Kane, Foden.
Vrai que s'il n'y avait pas Sterling, j'aurais pas misé une livre sur leur attaque, quoi.
Techniquement, si, mais les joueurs, et je pense que tu arrives au problème de, t'enchaîner les saisons il y a quand même une trop longue pause pour lutter contre la pandémie hein. Faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui ont arrêté mi-mars et qui ont repris début septembre hein. Donc tous les préparateurs physiques vont te dire le corps de ces sportifs là est tellement pas habitué à s'arrêter aussi longtemps que ça a été très compliqué. D'ailleurs, tu multiplies les blessures hein, même chez des joueurs de niveau Ligue 1 hein, ou première division entre guillemets qui ont aucune visée internationale, t'as un sacré paquet de blessés parce que les corps supportent pas, et là en plus t'arrives, tu dois te taper des fois 3000 km en 5 jours parce que le match est de l'autre côté de l'Europe, tu te retrouves dans des stades à 35 degrés, ouais, tu peux comprendre que tu te retrouves des fois avec des équipes qui sont pas au top, top, top.
Ouais, qui est un argument qui n'est pas valable pour les Anglais, parce que pour le coup, eux, ils ont été à Wembley tout le temps, quoi.
Ah oui, oui, il y en a qui y a pas d'excuses, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident tout le temps. Il fallait les jouer, hein, les matchs à Budapest sous plus de 30 degrés. Hein.
Mm-hmm.
C'est, ça s'est vu, mais ça, on y reviendra plus tard. D'abord, on va s'intéresser aux matchs qui se sont déroulés à, tiens, Séville et Saint-Pétersbourg.
Bah, ça devait être, pour moi, ça devait être Bilbao et Dublin au départ.
Oui, oui, mais voilà, c'est comment ça s'appelle pour Dublin, je sais plus pourquoi, mais enfin, c'est, non, c'est pas à cause d'une résurgence de la pandémie ou une connerie comme ça. Ah là, c'est pareil, hein, on pense supprimer les demi-finales et la finale de Wembley pour les envoyer dans le stade raciste et homophobe de Budapest, quoi. À cause des restrictions.
Séphérine a bien montré que il fallait surtout pas prendre de décision pour surtout fâcher personne quand t'as des lois homophobes, alors que il y a écrit en gros "Say no to racism" sur tous les maillots, quoi. Mais on te dira que l'homophobie c'est pas du racisme, ce à quoi je te réponds que si, c'en est.
Et ouais, non, mais ils ont quand même été interdire
les homosexuels comme en dessous.
Ils ont quand même été interdire à l'Allemagne de mettre le stade aux couleurs LGBT QIA+. Pour la rencontre contre la Hongrie, hein, pour pas provoquer entre guillemets la Hongrie. Donc ouais, c'est un vrai problème. Mais bon, donc du coup, le groupe E, où a priori il n'y a pas eu de problème de racisme ou d'homophobie. La Suède s'est imposée 1-0 contre la Slovaquie sur un but de Forsberg, tandis que l'Espagne faisait match nul contre la Pologne avec un but de Morata, très généreuse la VAR parce que il y avait quand même un bon petit hors-jeu à mon sens, mais bon. Tandis que la Pologne, eh ben le miracle, Lewandowski a marqué en phase finale d'une compétition.
Et deux fois, monsieur.
trois, parce qu'il en a mis deux contre la Suède, mais pas de bol, la Suède en a mis trois. La Suède s'impose 3-2. Avec un doublé de Forsberg et Claesson pour conclure et offrir la victoire à la Suède à 94e minute quand même. Tandis que dans le même temps, bah, l'Espagne allait fracasser la Slovaquie 5-0 avec un but contre son camp de Dubravka, but de la porte, Sarabia, Torres, Kuka contre son camp.
Je reste persuadé que sans ce but contre son camp du gardien, l'Espagne n'est pas dedans. Ils ont raté le penalty 20 minutes avant.
Oui, mais attends, ils ont un vrai buteur avec Aymeric Laporte. Hein. Donc bref. Et là, petite surprise puisque en tête du groupe, c'est la Suède avec 7 points. L'Espagne n'en a que 5. Enfin, s'ils auraient été dans le groupe F, ils finissent en tête. La Slovaquie.
Et à 90 plus à 90 plus 3, c'était l'Espagne qui était devant. Hein.
Oui, mais la Slovaquie, avec sa très lourde défaite contre l'Espagne, se retrouve dans les moins bons troisièmes. Ils auraient perdu que 1-0, ils passaient, hein. Mais ils ont perdu 5-0. Tandis que la Pologne ferme la marche avec un petit point. La surprise, c'est l'inversion Suède-Espagne, mais clairement l'Espagne, elle est pas dedans, hein, quoi. Ils sont pas encore rentrés dans leur euro, on va dire. Hein.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ils y sont pas.
Oui. C'est bon, après voilà, ils ont explosé les Slovaques qui je pense étaient arrivés c'est d'autant plus étonnant qu'ils étaient encore en position de se qualifier, hein. C'est, on peut pas dire oui, on a zéro point au bout de deux matchs, on balance le match, ils en avaient quand même trois, hein. Ils ont complètement explosé. Je sais pas pourquoi, hein. Je dois dire je n'ai pas vu ce match. Donc bon, après la Suède, tant mieux pour eux, hein, mais c'est la Suède, quoi. C'est tous derrière avec deux joueurs qui partent très très vite en contre. C'est super efficace. Ouais. Ils ont retrouvé l'efficacité qu'ils avaient perdue ces derniers temps, qu'ils avaient il y a quelques années. Ils l'ont. C'est cyclique, hein, leur réussite sur ce système. Et puis bon, les Espagnols, ils font tourner autour du bloc. Ils ont, ils ont pas le joueur qui arrive à transpercer ces blocs, quoi, en fait.
Bah, les Espagnols, ils sont prenables, hein.
Oui, ben, j'ai envie de dire, tout le monde paraît prenable, c'est ça qui est impressionnant. Et y compris les équipes du groupe F. Et donc,
voilà, quelle belle transition.
Ce groupe F qui voit donc la France s'en sortir de justesse contre la Hongrie par un petit match nul, hein, but de Fiola à 47e et Griezmann qui va chercher l'égalisation à 66e. Dans le même temps, l'Allemagne a explosé le Portugal, hein, c'était journée porte ouverte dans la défense portugaise, qui en encaisse 4. Elle en marque 2, mais bon, elle encaisse 4. Elle perd 4-2. Donc des buts.
Et les deux qui marquent de mémoire, enfin il y en a un des deux, c'est un contre, quoi. Donc ils étaient déjà bien, bien, bien derrière à ce moment-là. Ils en avaient pris un pour refuser pour avoir jeu déjà.
Oui, donc bah les buts pour l'Allemagne, c'est Diaz et Guerrero contre leur camp, Havertz, Gosens, tandis que Ronaldo en route vers le record avec Jota. Bah, le record. Il avait déjà battu le record de Michel Platini de nombre de buts marqués à l'Euro. Mais il y a le record de nombre de buts en sélection à aller chercher. Record qu'il a été égalé lors du match du 23 juin 2001 à 21h au Stade Ferenc Puskás de Budapest en marquant deux fois sur penalty contre la France qui a marqué sur penalty par Benzema et dans le jeu par Benzema de partout. Tandis que l'Allemagne va arracher à 5 minutes de la fin l'égalisation contre la Hongrie de partout et sauve sa place en huitième parce que ben, ils étaient menés 2-1, ils étaient menés 1-0 puis 2-1 par les Hongrois avec but de Zalaï et Schäfer, tandis que Havertz et Goretzka ont égalisé pour l'Allemagne. Ils ont eu très très chaud les Allemands, ils ont failli passer à la trappe en quatrième position. Ça aurait quand même fait tâche après être sorti déjà en poule il y a 3 ans en Coupe du Monde. Hein. Mira, c'est la dernière compétition de Joachim Löw.
On a l'impression que Löw n'en a rien à foutre.
Ah, il a plus de crotte de nez, hein. Il a plus le, voilà. C'est, non, mais voilà, si l'Allemagne était sortie 2 fois en poule sur 2 compétitions consécutives. Et là, bah, mine de rien, non seulement ils finissent pas 4e, mais ils finissent carrément 2nd. Ils devancent le Portugal au goal average particulier. Puisqu'ils avaient...
Ils finissent 2nd.
Oui, la France donc finit première avec 5 points, le plus fait premier de tous, en nombre de points hein, je parle, devant l'Allemagne et le Portugal, 4 points chacun, et ils ont tous les deux plus 1 de différence générale, donc tu vas chercher la différence particulière, et donc ben, l'Allemagne a tapé le Portugal 4-2, donc ça envoie le Portugal dans le lot des meilleurs 3e, mais bon après ça change pas non plus drastiquement le destin du Portugal qui se serait de toute façon tapé un gros même en 2e position. Hein. Puisque le 2e va affronter l'Angleterre, nous y reviendrons. Mais bon, je pense que là c'est l'heure de faire le bilan de la France. Je suis incapable de dire quel niveau elle a. Est-ce qu'elle a pris par-dessus les poules, genre, tu sais, on joue tranquille, on monte en puissance, puis en plus, il fait 35 degrés, c'est bon, quoi, on va pas se cramer. Ou est-ce qu'il la joue trop facile, ou je sais pas du tout.
Je t'avoue que je n'en sais rien.
Tu vois, il y a des attitudes qui me, comment dire, me dérangent, entre guillemets. Première mi-temps contre la Hongrie, on se crée quand même plusieurs occasions, tu vois. Genre, il y a 2 têtes de Mbappé qui passent au-dessus. Et ça rigole, tu vois. Comme si on était à l'entraînement, ou alors, en match amical, on mène 3-0, tu vois, et on rate des trucs plus ou moins simples. Il y a ce côté, on rigole. Contre le Portugal, hier, à un moment, Rabiot, il fait une touche n'importe comment, et derrière, t'as Benzema qui va le chambrer, tu vois. T'as l'impression que c'est les potes le dimanche matin, en fait. Dans des matchs, comme si elle avait aucune importance. Comme si cette équipe se disait, ouais, de toute façon, peu importe ce qui nous arrive, on renversera la situation. Et
il y a un moment, ils n'y arriveront pas. Mais d'un autre côté,
je sais pas, franchement,
il y a... un peu ce que tu dis. J'ai trouvé que contre l'Allemagne, il y avait un match tendu, mais qu'on a réussi à tenir et qui était abouti. Et je trouve que contre le Portugal, à partir du moment où on a été mené, c'était pas si mal.
À la deuxième mi-temps, ils ont un peu bougé leur cul et surtout il y a eu un changement tactique. Et ça, le fait de
Je sais que tu l'aimes pas trop, mais Je trouve que Benzema, sur son but dans le jeu, il fait exactement ce qu'il fait habituellement au Real.
Oui, non, mais son but, non, mais alors là, pour le coup, Benzema, j'ai pas grand-chose à lui reprocher en termes d'application dans le jeu. Le problème, c'est que tu l'appelles pas à 15 jours de l'Euro, alors qu'il avait joué avec certains joueurs, il a jamais joué. Les autres, ça fait 6 ans qu'il a pas joué avec eux. Et ça se voit que les trois sont perdus devant. Griezmann, il sait absolument pas où il doit jouer. Il y a des fois, pour toucher le ballon, il redescend en poste de 6, quoi, au niveau du 6. Tu te rends compte? Putain, parce que Benzema, il fait ce qu'il doit faire. Il décroche jusqu'au milieu de terrain avant de se reprojeter vers l'avant. Mais du coup, oui, tu vois, ça se marche un peu sur les pieds. Tous les matchs de Kylian, c'est première mi-temps, je colle la ligne. Deuxième mi-temps, de plus en plus, je me fous au centre parce que je veux être avant-centre. J'ai décidé que je serai avant-centre. Tu vois, c'est ouais, y a pas, et c'est normal, hein. Il fallait s'y attendre. Il y a pas d'automatisme entre ces trois-là. Et je suis pas persuadé qu'un jour ils auront les automatismes pour en faire l'attaque qu'on pourrait rêver. Techniquement, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même tous les trois, ils sont quand même forts techniquement, hein, ça tu peux pas individuellement. Enfin, Benzema et Griezmann sont forts techniquement, balle au pied. Mbappé, faut qu'il arrête d'essayer de dribbler, hein. Ou alors qu'il travaille vraiment les dribbles à l'entraînement,
Ouais.
mais
Non, je suis
voilà,
d'accord.
c'est ça le problème. Mais on a cette impression que peu importe ce qui va se passer, il y aura toujours l'effet de jeu qui tourneront pour elle, c'est cette confiance du champion en fait. Genre le premier match contre l'Allemagne, tu peux dire ce que tu veux, on se crée pas une occasion. S'il y a Hummels qui la met pas dans les buts, je pense que là on aurait
Je
peut-être
sais
là
pas, je
joué.
sais pas, il y avait quand même un ou deux attaquants derrière, hein, au moment où Hummels
Ah
la
oui,
met dedans.
Hummels il la dégage parce qu'il faut la dégager, c'est vrai. Mais tu vois, il y a ce côté. Mais au final, quand tu y repenses. Ben, on se crée pas d'occasion, mais il y a deux buts refusés pour hors-jeu, il y a une frappe sur le poteau, en plus du but. Donc, on aurait pu gagner 4-0 contre l'Allemagne. Tu vois, c'est cette impression tellement bizarre qu'elle laisse cette équipe de France. Et, ben, voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est que Didier Deschamps, à la mi-temps, il donne comme consigne, on leur laisse le ballon et on défend en bloc, on les prend en contre, hein, les Allemands. Ouais, enfin, bon, je peux comprendre, mais, il faut trouver un juste milieu entre le youpi tous à l'attaque et le bloc derrière quoi. On est la France avec les joueurs qu'on a, Kanté, Pogba, Benzema, Griezmann, Mbappé, même que c'est l'Allemagne en face, surtout quand tu vois au final des trois matchs de l'Allemagne, tu te dis ouais, c'était pas non plus les foudres de guerre hein, les Allemands, tu peux te dire on aurait pu contrôler un peu mieux la deuxième mi-temps. Après, tu joues la Hongrie. Ben la Hongrie, ils ont fait ce qui était attendu. Hein, ils se sont mis en bloc derrière et la France, elle n'y arrive pas
Ouais,
avec une. Ils ont
puis
pris un
à
contre.
4 minutes 30, je vois déjà la montre, hein.
Voilà. Et puis après, ben non, ils jouent le contre. Ils ont fait exactement le match qu'ils ont fait contre les Portugais. Et il y a eu la même chose. Hein, contre les Portugais, ils marquent un but, hein, mais sauf qu'il a été refusé pour hors-jeu. Et bon, après, sur la fin du match, les Portugais arrivent à les exploser, mais il y a pas tant de situations que ça non plus. Puis j'ai
Ouais.
l'impression qu'une fois qu'on avait égalisé, tu vois, après il y a les circonstances climatiques. Il faisait 31 avec ressenti 37 ou 38. C'était insupportable comme chaleur. Bon,
Ouais,
je pense
par
que sur le
contre.
dernier quart d'heure, il y a eu un côté du, on fait match nul, on a 4 points, on sera quasi qualifié, on va pas se cramer, il y a le Portugal derrière,
Oui,
voilà.
ben, ce qui peut plus ou moins se comprendre.
Et après,
Mais
tu joues.
néanmoins, l'excuse de on s'entendait pas sur le terrain. Alors certes, je suis entièrement contre le fait que Orban, dans son pays, autorise 60 000 supporters parce que c'est pas normal. De la même façon, enfin bon, bref, j'aime pas Victor Orban, donc voilà. C'est mon avis perso, hein, ça n'engage pas celui du podcast en lui-même. Par contre, si tu veux, on s'entend pas sur le terrain, mais les gars, vous êtes pros. Oui, ça fait un an et demi que vous n'avez pas joué sur un terrain de foot aussi plein.
Encore, ça serait genre Jules Koundé qui est tout jeune, qui a pas non plus une expérience. Mais quand t'entends Griezmann de sortir ça, mais tu fais, mon gars, ça fait 10 ans que t'es pro, quoi. T'as joué plus de 8 ans dans des stades en Espagne quand même qui sont archi pleins, hein, où il y a 50 000, 60 000 personnes toutes les semaines hein, dans tous les matchs. Et là, tout d'un coup, ah oh, ben on s'entend pas, on n'a plus l'habitude. Puis il faisait chaud. Puis le terrain était mouillé. Puis le vent, il était contre nous. Puis l'arbitrage, il était contre nous. C'est ça.
Dans
Puis le ballon, il
Astérix aux
était
Jeux
dégonflé. Et
Olympiques,
puis l'herbe, elle
dans Astérix
était
aux Jeux
pas.
Olympiques, on dit que les sangliers ont bouffé des cochonneries et que le terrain était lourd, quoi. Enfin.
Voilà, l'herbe, elle n'était pas coûtée. Non, mais voilà, ça faisait ce genre d'excuse. Non, vous avez pris probablement de haut la Hongrie. Comme je te disais tout à l'heure, le coup des occasions qu'on a en première mi-temps,
ouais,
on rigole parce que on va en avoir d'autres, c'est pas grave, on s'en fout. On les a pris de haut, il faisait super chaud, et quand il fallait se bouger le cul et qu'il faisait 35 degrés, merde, ouais. Mais tu vois, bon, on passe. Et derrière, le Portugal, ben, il y a deux décisions en première mi-temps qui peuvent, c'est pas choquant si elles penchent dans un sens comme dans l'autre. Pour moi, je considère que Lloris, il doit être exclu sur son geste. Maintenant, il est pas exclu, je trouve que c'est pas choquant non plus. Le penalty de sur Kylian Mbappé, pour moi, il y est pas. Parce que Mbappé, le ballon, il est perdu, c'est un contact entre les deux. Tu vois même d'ailleurs Mbappé qui fait vraiment le petit pas pour aller percuter le défenseur et tomber en disant oh mon Dieu, je tombe, oh là là. Bon, il nous a évité les triples roulades qu'il nous fait en Ligue 1, mais après, j'ai l'habitude de le voir jouer Mbappé. Je connais son style du je vais chercher la faute, tu vois. Maintenant, l'arbitre espagnol, il le connaît pas forcément aussi bien que, il a pas forcément aussi vu et tout ça, donc tu te dis, bon, mais c'est pas choquant non plus que le penalty soit sifflé. Mais tu vois, ces deux décisions par contre, tournent dans le sens de la
deuxième,
France.
Le deuxième penalty, là, sur la main, non, vraiment, enfin, oui, je sais que maintenant ça se siffle, mais enfin, c'est ridicule.
Bah, qu'est-ce qu'il faut avec les mains là-bas, Koundé, Non mais t'avais attention, tu pensais qu'il allait dunker Ronaldo, t'étais parti pour lui faire un bloc comme au basket ou quoi là. Je veux dire n'importe quel défenseur dans une situation comme ça, maintenant il met les mains dans le dos hein. Depuis des années. Bon après, Jules Koundé, c'est un jeune joueur, il a je sais pas combien de combien 2 ans, 3 ans de je sais même pas combien d'années de pro il a derrière lui.
Ouais, mais pas beaucoup.
Là, oui. C'est sa première sélection. T'as bien vu, en première mi-temps, il était pas génial, et en plus, il était pas aidé par Tolisso, qui était complètement à l'ouest devant lui. Bon, tu vois, je veux dire, il a des excuses.
Ouais, c'est sa seconde sélection?
Non, c'était sa première. Il était en équipe, jusque-là, il était en équipe, ah si, il a 2 sélections. Ouais, il a dû rentrer 5 minutes dans un match. Je pense, ça doit être ça.
Genre, en match de préparation, non? Pourquoi pas?
Ouais, une connerie comme ça, en carrière internationale, il fait partie, hein, effectue sa première sélection le 2 juin contre le Pays de Galles en préparation en remplaçant Pavard à la mi-temps du match. Ah non, j'avais déjà joué une mi-temps. Ouais, mais bon, voilà, prépa contre le Pays de Galles, c'est pas la même chose que en compétition contre le Portugal où il faut aller chercher quand même un résultat. Donc, c'est pas tout à fait la même
Après,
chose.
Après, j'ai trouvé que le Portugal, au-delà de ça,
Et il a pas démérité, je trouvais
que pas.
Donc tu dis, pardon? Je voulais juste
Moi, j'ai trouvé que le Portugal, tout comme l'Allemagne, n'y était pas dans cet euro.
Non, mais tu sens que là, j'ai en train de rattraper Ronaldo. Hein. Tu vois clairement, il passe plus de temps à marcher. Après, voilà, il fait quelques gestes de talent, il fait quelques orientations de ballon de talent, et puis il va marquer des pénaltys. De toute façon, là, son seul objectif, c'est d'aller battre le record, je crois, du joueur iranien ou je sais plus quoi. Il l'a égalé là contre la France. Maintenant, il va aller le chercher, le record, c'est tout, hein. Ah, il y a quand même 159 matchs en pro, hein, Jules Koundé. Mine de rien. 70 avec Bordeaux et 89 avec Séville. Il a 22 ans, je pensais qu'il avait 20 ans, en fait. Ouais, ça, c'est pas tout à fait la même chose.
Non.
Mais c'est vrai que le Portugal, ben ils ont, je pense qu'ils ont ce problème du comment réaliser l'animation offensive parce que le talent il est là au Portugal, hein, je veux dire, merde, là. On les avait cités là dans le pod pré-euro, voilà Bernardo Silva, João Félix, Jota, Cristiano Ronaldo, Renato Sanchez qui a fait quand même il fait un euro immense, hein, le talent il est là. Mais il manque quelque chose, j'ai l'impression. Maintenant, j'avais l'impression quand même qu'ils variaient dans leur inefficacité offensive, contrairement à la France en première mi-temps où c'était on balance une brique vers Mbappé et court Kylian, court. Voilà. C'était ça. Et quand on pouvait pas parce que tu vois le bloc portugais était bas, on faisait tourner jusqu'à ce qu'il y ait un espace en direction de Kylian et puis on faisait court Kylian, court.
Ouais, moi j'ai pas vu ça, mais je
regarde plus. La première mi-temps, j'ai Bah, j'ai quand même l'impression que le but de Benzema, c'est quand même la première fois où on cherche quelqu'un d'autre que Mbappé hein, dans la profondeur. Et bingo, ça fait but. Avec le petit poil de réussite. Tu le mets un centimètre à gauche, le poteau est sortant. Mais c'est un vrai but d'attaquant, oui. Mais là, non, franchement, Benzema, je suis content qu'il soit venu avec vraiment des bonnes intentions dans le jeu et tout ça. Et mais ça, la sauce, elle prend pas et c'est normal au bout de 5 matchs. Ça fait 5 matchs et même pas des matchs complets que les trois devant jouent ensemble. Donc tu peux pas.
C'est ça.
Tu peux pas avoir des automatismes et des repères comme ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi il l'a pas rappelé au mois de mars. Ça faisait déjà 3 matchs au mois de mars, plus ces 2 de préparation. T'as l'impression, ouais, je sais pas. Voilà, je suis incapable de dire. Mais j'ai l'impression ouais, qu'il peut lui arriver à ce qu'il veut.
Sachant qu'en plus c'est l'hécatombe, enfin l'infirmerie de l'équipe de France est remplie. Digne et Hernandez, on a perdu Thuram et Thomas Lemar aujourd'hui.
Donc Digne et Dembélé, c'est fini.
Ouais. Hernandez
c'est out pour le 8e, c'est sûr, et peut-être plus. Oui, donc aujourd'hui là, donc au moment où on enregistre, il y a 2 heures à peu près. Lemar et Thuram sont sortis blessés de l'entraînement. Maintenant, on n'a aucune idée de la. Est-ce que c'est juste par précaution?
Lemar, apparemment, selon l'équipe, a hurlé de douleur suite à un coup au tibia. Donc.
Oui, mais on en reste toujours que il arrive un moment, il faut quand même que ses corps se reposent.
Oui.
Tu peux pas leur demander d'enchaîner des matchs tous les 3 jours pendant un temps infini, surtout en plus avec. Cette saison qui a été très particulière, comme je te dis, ils se sont arrêtés certains quasiment 6 mois. Derrière, il y en a quand même un paquet qui ont chopé le Covid, donc ils ont été encore arrêtés. Il y en a qui ont eu du mal à s'en remettre du Covid. Ouais, c'est normal que ça craque un peu de tous les côtés. Hein. Et ouais. C'est pour ça aussi que je me dis, certaines équipes où tu te dis, mais merde, normalement elles sont censées être meilleures que ça, je me demande si elles se réservaient pas, parce que justement, la peur de se blesser ou des choses comme ça, ou de pas trop forcer pour ben pour être au point lorsque les vrais matchs arrivent quoi.
Ouais. Ah non mais c'est pas probable. Hein.
Ou alors est-ce qu'ils sont vraiment complètement crevés et que de toute façon ils pourront pas faire mieux. Et je parle pas que de la France hein, ça vaut pour les Pays-Bas, l'Angleterre, toutes ces équipes là hein. Donc c'est
mais en attendant, écoute, l'UEFA surtout ne prend aucune décision, surtout force le gouvernement de Boris Johnson, que je n'aime pas hein, par ailleurs, c'est comme Orban, mais force Londres à prendre une jauge à 60 000, je crois, pour la finale.
Oui, mais il faut surtout faire sauter le temps de quarantaine à l'entrée dans le territoire. C'est surtout ça.
Hein. Mais, qu'est-ce que tu veux autant, enfin voilà, la FIFA au Brésil en 2014, ça s'est déjà vu quand l'alcool était interdit dans les stades et que la FIFA a dit ouais mais notre sponsor c'est Budweiser donc vous n'avez pas le choix, vous mettez de la bière dans vos stades. Là, l'UEFA qui fait annuler des lois concernant le Covid parce que tu comprends, les droits télé doivent être intéressants. Il y a un moment, j'en ai marre.
Quoi enfin, y a quoi on a un coéquipier qui est à l'article de la mort, qui va faire un malaise cardiaque, il faut qu'on joue tout de suite parce que ça arrange les télés. Non.
Mais c'est ça, enfin merde, au bout d'un moment, bordel, enfin c'est l'humain, et j'en ai marre de ce foot business, et c'est la dernière compétition internationale que je regarde, comme, enfin je ne regarde plus.
T'es en train de nous faire une émission jaquée, tu montes dans les.
Il y en a marre des cannes au chaud, mais j'en ai marre.
Il y en a marre
là,
du
en fait.
Foot business.
Non, mais
et même les joueurs, on aura le
cul. Effectivement, et ça peut faire rire. L'extérieur, hein, ma position, mais enfin, j'en ai marre, vraiment. J'aimais bien ce sport, et j'en ai marre.
Ouais, parce que tout est pris sur le prisme de la maximisation des profits, tout.
Et je regarde la Copa América en parallèle, mais voilà, enfin, cette égalisation douteuse du Brésil qui ensuite marque à 90 plus 10 dans les arrêts de jeu. Mais enfin, où est-ce qu'on est?
Mmh. Au moins, tu peux dire ce que tu veux des Japonais, mais voilà, par exemple, pour Tokyo va organiser les JO au niveau des règles pour les supporters, spectateurs. Voilà, c'est ils acclament pas les sportifs, interdiction d'entrer en contact direct avec d'autres spectateurs, rentrée immédiate chez eux après les compétitions, Interdiction de demander des autographes aux athlètes, ni même d'exprimer son soutien verbal, d'agiter une serviette ou de s'y livrer à une quelconque forme d'acclamation susceptible de créer un attroupement.
Oui, donc, en gros, t'as le droit d'a... Oui.
Ils peuvent ressentir de la joie dans leur cœur.
Dans le stade, quoi.
Les gens peuvent ressentir de la joie dans leur cœur, mais ne peuvent pas être bruyants et doivent éviter les foules, a dit l'organisatrice des JO. Ajoutons, nous déployons beaucoup d'efforts pour trouver une nouvelle façon de célébrer. Donc, tu vois, ils sacrifient pas les distanciations sociales et les règles, pour c'est l'ambiance. Ça. Voilà. Et ouais, et j'aime bien parce que, c'était super de ramener le public dans les stades, dis donc. Dès le premier match, des insultes homophobes, dès le deuxième match, des cris de singe. Mais bravo, hein, c'était, génial. On est content d'avoir retrouvé.
Mais surtout, surtout ne faisons rien parce qu'il y a écrit Sign Out Racism sur tous les maillots. Enfin, mais merde. Enfin, au bout d'un moment, ça devient chiant. Après, la création de la Ligue Europa Conférence et de l'annulation du but à l'extérieur, c'est exactement ça.
Après, s'il y avait quand même un avantage d'avoir retrouvé un stade plein, c'est que ça fait paniquer Greg Margoton. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi le public s'enflamme? Non, c'est la Hongrie qui vient de marquer en Allemagne. D'accord.
Oui, ça, c'était drôle.
Par contre, quand il termine
Et les supporters français du Bucarest au lieu de Budapest, si on en parle.
Non mais attends, juste pour finir sur Greg Margoton qui termine le match contre le Portugal en disant c'était une magnifique rencontre dont on se souviendra. Je dis mais non, t'es fou là toi, c'était tellement désespéré à la mi-temps que pour le coup oui, on a bien repris la deuxième mi-temps, on a mieux joué en deuxième mi-temps, mais non, on peut pas dire que c'était une rencontre magnifique dont on se souviendra, il faut quand même pas exagérer non plus, mais
moi je t'avoue que
par
les
contre oui,
de poule dont je me souviens.
Hongrie-France, oui, il y en a 6 qui vont s'en souvenir quand ils sont pointés à Bucarest. Et en 8e, ils vont se retrouver à Budapest, je le sens. Je te sens que les journalistes vont te trouver au moins un ou deux mecs qui s'est planté pour le match de Hongrie qui va se planter pour le 8e de finale.
Oui, mais au moins à Budapest, ils pourront voir un joli Pays-Bas République tchèque la veille. Voilà.
Ah ben non, parce qu'ils seront politiqués pour rentrer.
Oui, c'est vrai. Mais... Et moi, j'imagine, ouais, les gars, on a les billets, c'est bon, j'imagine atterrir à l'aéroport et voir personne devant le stade.
Bref, donc, on arrive au 8e de finale. Non? Tu veux pas en parler des 8e?
Si, je veux bien en parler.
Bah, faire le petit pronostic. Alors, un petit Belgique-Portugal. Donc, les Portugais jouent les Belges au lieu de jouer les Anglais.
Ah, tu les fais pas dans l'ordre.
Si j'ai fait dans l'ordre du tableau.
Tu fais pas dans l'ordre de jeu.
De diffusion, non, bah oui, non, j'aurais pu faire Italie ou Autriche, mais non. Donc Belgique, Portugal.
2-1.
Pour?
Les Belges.
Oh, j'aimerais tellement que les Portugais sortent les Belges. Mais
moi,
j'y crois pas.
Non, pas pour le coup, parce que je trouve que les Portugais, ils sont pas, je trouve qu'on en fait beaucoup autour de Cristiano Ronaldo. Et oui, on fait beaucoup autour des Belges, mais c'est peut-être leur tour aussi.
Je sens un 3-0 pour les Belges. Une victoire nette, sans bavure, un Portugal qui arrive pas. Et donc, le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de Italie-Autriche. Donc, Italie-Autriche...
2 ou 3-0.
Ouais, l'Italie... 1...
Moi, je vois bien, tu 3, vois, 1-0 en première mi-temps, genre à la 30-35e. 2-0 à la 80. 5e et 3-0 dans les arrêts de jeu parce que...
Non, je pense que vraiment les Autrichiens vont sauver l'honneur. Donc je dis à titre 3-1 pour l'Italie. Voilà. Donc, France-Suisse. Alors 0-0. À la fin des prolongations, 0-0. Et à la fin des tirs au but, 1-0.
Ouais, Non, moi,
mais quoi, tu me diras, la dernière fois qu'on a joué en compétition, la dernière fois qu'on a joué en compétition, on les a explosés 5-2, et Karim Benzema a eu marqué plusieurs fois, il me semble. Mais enfin, c'était en 2014. Mais on les avait explosés 5-2. Ouais, sinon, ouais, France-Suisse, France-Suisse ouais. C'est...
Moi, je vois bien les Français ouvrir le score, les Suisses égaliser, les Français en mettant deuxième.
Soit ça va faire, je te dis, le 0-0 à la fin des prolongations, soit on va avoir le coup du sort à la con qui va nous faire gagner 1-0 genre à 86e minute de jeu.
Et en même temps, moi, contre l'Allemagne, j'avais
prédit à mes élèves... La chatte à Dédé qui rouvre un œil, Allez, non, j'ai pas envie de faire les prologues. Allez, hop.
Et en même temps, moi, tu vois, contre l'Allemagne, j'avais dit à mes élèves qui m'avaient demandé, vous pensez qu'on va gagner combien? Enfin, je pense 2-1 pour les Français avec un but sale. Enfin, en finale, c'était 1-0 avec un but de merde contre son camp. Je vois bien le même coup contre les Suisses. Un vieux truc sale.
Ouais. Et donc, ben, le vainqueur de France-Suisse affrontera le vainqueur de Croatie-Espagne. Allez, j'ai envie de mettre une piécette quand même sur les Croates. Si
tu as les Croates, toi.
Si tu as les Croates de la deuxième mi-temps là, de leur troisième match donc d'hier, je suis pas sûr que les Espagnols y arrivent. Hein.
Moi, je vois bien 3-1 pour les Espagnols, tu vois.
Surtout si la porte, il nous fait encore ses conneries défensives. Hein. Non, 2-1 pour les Croates. Allez, je tente les Croates, moi.
T'as peut-être raison.
Puis France-Croatie, on aime ça. Hein.
Ouais, 2-1 pour les Croates, en fait, vu ton argumentation, ça me paraît mieux.
En plus, voilà. Comme ça, ça ferait un petit France-Croatie en quart de finale. On récupère Marcus Thuram, il nous signe à doubler et on gagne 2-0.
Oui, c'est ça.
Là, les Croates, je pense qu'ils mettent un contrat sur la famille Thuram.
C'est ça.
Donc, maintenant, on va passer à l'autre partie de tableau. Avec un... donc, allez, on va commencer par l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Pays de Galles-Danemark.
1-0 pour les Danois.
Allez, moi, je suis fou, je tente le 1-0 pour les Gallois. Ah, et là, c'est vraiment le match. Mais ça se trouve, ça va finir un match de folie, 4-3, tu sais. Ça va être complètement ouvert.
Non, j'y crois pas.
Pas avec les Danois. Les Danois, il y a 8 joueurs, ils savent pas à quoi ça ressemble au-delà de la ligne médiane, en fait.
Un peu comme dans le Roi Lion, tu sais, tu dois jamais aller là-bas. Imagine le coach danois, vous devez jamais aller après la ligne médiane.
De temps en temps, t'as le Simba danois qui y va. Et hop, il y a le père qui va vite le rechercher. Non, tu reviens.
C'est ça.
Non, allez,
en vrai, il risque d'y avoir des Danois parce que c'est Amsterdam, hein. C'est pas très loin.
Ouais. Mais, oui, c'est vrai que c'est, oui, ça doit être plus proche Copenhague-Amsterdam que Bucarest-Budapest. Bref, le vainqueur, donc le Pays de Galles, hein, puisque je prédis le Pays de Galles, affrontera le vainqueur de Pays-Bas, Tchéquie, République Tchèque.
Non, mais là, c'est 3-0 et sans appel. Hein.
Ouais, mais sauf que moi, je mets 3-0 pour le Pays-Bas.
Et moi aussi, monsieur.
Ah bon, tu misais pas 3-0 pour la Tchéquie, je croyais, dis donc. Ouais, donc 3-0 pour les Pays-Bas, sans appel. Voilà.
Mais en fait, je pense que les Pays-Bas, pour eux, c'est un match de poule.
Bah, ils vont pas se rendre compte que... Voilà, et non mais... En plus, ils risquent de rencontrer derrière le Pays de Galles ou le Danemark. Je veux pas dire, s'ils sont sérieux, les Pays-Bas, ils sont déjà en train de se voir en demi-finale. Hein. Une demi-finale, qui les verra...
Les Irlandais, le New Portugal, hein, parti comme ça.
Ouais, voilà. Et donc, en demi-finale, ils rencontreront peut-être les Suédois. Si la Suède bat l'Ukraine dans leur huitième de finale, et je les vois battre l'Ukraine 2-1.
Moi, je mets 1-0.
Genre, ils ouvrent le score à la deuxième, troisième minute de jeu, ils bétonnent comme des malades, les Ukrainiens qui galèrent, qui égalisent à 82e, et pouf, à 87e, but suédois.
Voilà, un petit 1-0.
Voilà. Et, bah, et le vainqueur de ce match, donc 1-0 pour la Suède.
Ouais.
Ouais. Et donc, le vainqueur de cette rencontre affrontera le vainqueur du dernier huitième de finale, Angleterre, Allemagne, les deux, j'ai envie de dire convalescents. Et je suis pas capable de dire quelle équipe va gagner.
Oh là. Moi, je mets les Anglais. Je mets une piécette sur les Anglais parce que l'œuf en a plus rien à foutre et que c'est à Wembley.
Ouais, mais il y a des limites. Enfin, après, si c'est l'Allemagne qui a joué le Portugal, il tape les Anglais. Si l'Angleterre, le potentiel offensif de l'Angleterre se réveille, j'ai peur pour les Allemands parce que c'est pas une défense. Ah, et moi je tente le match nul avec une victoire des Anglais en prolongation. 2-1. Donc 1 à la fin du match et 2-1 victoire anglaise en prolongation, justement poussée par le public de Wembley.
Ouais.
Ah mais oui, il faut tenter des prolongations. Toi tu mets des scores nets comme ça, hein. Tu veux pas des prolongations? Rien que pour faire chier les télés. Attends, j'espère qu'il y a bien des prolongations.
Oui.
Non, mais maintenant, avec leur truc de supprimer les prolongations de plus en plus,
Non, non, les gars. Mais bon. En vrai, tu vois, si je prends le tableau, en quart de finale, d'après ce qu'on m'a dit, ça fait Belgique, Italie, France, Croatie.
Ouais.
Suède, Angleterre ou Allemagne, Pays-Bas, Danemark ou Pays de Galles.
Mmh.
Donc, pour moi, très clairement, hein, ça fait les Belges et les Français en pays. Je vois pas l'Italie battre les Belges, en fait.
Si, ou alors ils perdent 1-0 face à une équipe italienne qui joue le Catenaccio. Ils font, putain, c'est nous les vrais champions d'Europe.
Les Italiens, depuis le début de l'Euro, ils jouent pas le Catenaccio.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais attention, ils sont quand même forts en défense. Et c'est ça, ils ont trouvé l'équilibre. Ils jouent offensif, mais ils sacrifient pas la défense non plus. Mais c'est vrai que c'est plus les murs infranchissables des années 90, hein, non plus. Et je suis content, quoi, de revoir les Italiens.
À l'Euro 2012, j'ai trouvé que l'équipe italienne était sympa. Hein.
Honnêtement, je m'en souviens plus. Mais
ça jouait plus vers l'avant qu'avant.
C'est vrai que depuis leur victoire en Coupe du Monde en 2006, les Italiens, ils avaient un peu disparu des radars. De voir une équipe comme ça qui peut faire un bel Euro, c'est toujours sympa, quoi. J'adore.
Ouais, enfin, j'adore. Disparu des radars, ils ont quand même fait une finale à l'Euro 2012. Hein.
Oui, mais qui s'en souvient de l'Euro 2012?
Tout le monde se souvient que les Espagnols jouaient à l'italienne.
Non mais franchement, Pologne-Ukraine, quoi. Non mais c'est la meilleure idée du monde, tiens. Ça a fait tellement rêver le. Non mais voilà. Puis j'aime bien les France-Italie en demi ou en finale, quoi. Ça, ils ont une saveur particulière. En plus, voilà, moi, je suis dans une région où il y a beaucoup d'immigrés italiens. Enfin, il y avait beaucoup d'immigrés italiens. Maintenant, c'est des immigrés portugais. Mais voilà, j'ai grandi avec cette rivalité France-Italie, quoi. Donc, je peux te dire que l'égalisation à la toute dernière minute en finale en l'an 2000, je t'ai hurlé dans le cul les Italiens, dans le cul les Italiens. J'étais, voilà, c'était le truc de, tu vois, c'était. Allez, vous les prenez les bouteilles de champagne et vous les mettez où? Dans votre cul!
Mais, je sais pas si t'as vu pendant le Hongrie-France.
Ils se sont vengés 6 ans plus tard.
Oui, c'est vrai.
Ton coup de boule! Va faire un clou, ton coup de boule!
Mais je sais pas si t'as vu le Hongrie-France. Enfin, le compte Twitter de la FFL pendant le Hongrie-France.
Ah oui, parce que si tu me demandes si j'avais vu le Hongrie-France, oui. J'ai failli m'endormir, mais oui, je l'ai vu.
T'as une occasion, tu sais, le truc immanquable du gars au point de pénalty qui tire juste au-dessus. Et parce que ils ont découvert que leur voisin avait 30 secondes de retard sur eux, ils ont fait croire qu'il y avait eu but. Et donc tu les vois gueuler, célébrer au balcon comme s'il y avait un but. Et en fait non, pas du tout. Et les gars, ils sont hyper déçus devant leur télé au rez-de-chaussée.
Ah ouais, je déteste ça quand tu regardes dans le match en streaming ou une chose comme et légal, hein, je parle, si tu vas sur MyTF1 hein, ou Sisplay, hein, et que tu te retrouves avec 30 ou 40 secondes, et t'as la fenêtre ouverte et que t'entends ceux qui regardent en direct à la télé qui ont 30 secondes d'avance sur toi, il va se passer quelque chose. Ou quand t'as laissé ouvert Skype et t'as Max qui est toujours en avance sur le reste du monde.
Mais parce qu'en Normandie, on capte mieux.
Mais j'espère que le niveau va quand même s'élever, hein, maintenant qu'on arrive dans les matchs à élimination directe et que ça va pas être des équipes crevées qui ont trop chaud et qui défendent plus que proposer du jeu, quoi, que de proposer
du jeu. Sur un ou deux huitièmes sur les huit, là, je dis pas éventuellement un ou deux quarts de finale, mais demi et finale, ça va être fermé.
Après, demi et finale, c'est entre guillemets logique. L'enjeu prend le pas sur le jeu, mais en huitième, à Belgique-Portugal, qu'ils soient les deux équipes soient prudentes, je comprends. Maintenant, si l'Italie joue fébrile contre l'Autriche ou la France contre la Suisse, c'est pas normal non plus. Voilà, il y a quand même trois huitièmes entre France, Suisse, Croatie, Espagne et Pays-Bas, Tchéquie. Logiquement, il y a moyen de proposer un minimum de jeu. Encore une fois, je dis pas Youpla, on part à l'assaut des buts adverses et on joue en 2-3-5, tu vois. Non, je dis pas ça, mais ouais, voilà, au moins d'avoir le contrôle du match, de la balle, des occasions, tu vois, c'est bah, un peu comme la deuxième mi-temps contre le Portugal, en fait.
Ouais.
Par contre, est-ce qu'on a la désignation des huitièmes de finale en clair au moment où on enregistre?
Oui, alors moi je pense l'avoir,
zut.
Je l'ai trouvé.
Zut, non. Mais non, mais moi je voulais qu'on fasse des paris dessus.
moi je l'ai. Italie-Autriche le samedi 21h.
Oui, en fait ça va être les 5 matchs à 21h quoi en fait.
Les 4 matchs à 21h, ouais, déjà. Donc Belgique-Portugal le dimanche à 21h. France-Suisse le lundi à 21h.
Ça c'était obligatoire.
Et Suède-Ukraine le mardi à 21h. Et ça nous laisse Angleterre-Allemagne le mardi à 18h.
Sans déconner, Suède-Ukraine.
Ouais.
Puis tu veux pas plutôt un Pays-Bas Tchéquie?
Je préférerais un Croatie-Espagne en vrai.
Oui aussi, c'est vrai qu'il passe pas Croatie-Espagne. Et Suède-Ukraine.
Après, ça a encore le temps de changer. Je pense que le Suède-Ukraine, ils peuvent le lâcher. Mais le problème avec le match à 18h, c'est qu'ils peuvent pas faire le match derrière.
Ah, et puis ils sont pas à l'abri des prolongations qui leur niquent le 21. Bah, après, M6, entre guillemets, ils peuvent s'en foutre, entre guillemets. Mais c'est vrai que TF1, ils ratent le 20h, du coup. Hein. Tu sais bien que le 20h, que ça soit le 20h ou quotidien sur TMC, ça fera plus d'audience qu'un Pays-Bas Tchéquie, hein, ça c'est sûr, ou même un Croatie-Espagne. Quoique ouais. Croatie-Espagne, ça peut faire plus, ça peut faire 2 millions quand même. Quotidien, oui, je crois que c'est 1,8 million leur moyenne. En plus, ça, ils sont rediff maintenant, enfin, la saison est finie. Donc oui, ils pourraient le basculer sur TMC, mais bon.
Oui, en plus, Nico, tu vois qui arrière gauche contre la Suisse? Parce que Guy Stéphane, il a l'air en forme selon la FFL.
Moi, j'étais en train de regarder, oui. Et puis en plus, Croatie-Espagne, c'est lundi. Donc c'est le 28, c'est lundi. Les gens, ils sont au boulot.
Ouais.
Bah non, mais Greg Margoton, il avait la bonne idée, hein, d'envoyer Elisa Razou. Je veux dire, il est quand même encore physiquement... encore une belle bête, hein, Bichent. Au pire, il y a Fred Callange, il est toujours à côté de la ligne. Il faudra juste se mettre de l'autre côté de la ligne. C'est tout. J'aime bien, ils avaient... Oui, oui, vous pouvez en appeler 3 de plus en cas de Covid. En fait, c'est que des blessures hors Covid qui vont...
C'est ça.
Mais les équipes... Quoique non, les Écossais, ils en ont eu un des cas de Covid.
Ouais.
Ouais. Hein. C'est quand même dingue, ils sont dans une bulle sanitaire et ils arrivent à choper des cas de Covid.
Ouais.
Donc, bon. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah nous, du coup, on va se retrouver après ces huitièmes de finale. Hein, entre le 30 juin et le... Soit le 30 juin, soit le 1er juillet. Je pense le 30 juin. Le mercredi.
Ouais.
Non, voilà. Mercredi en fin d'après-midi. Hein. Et puis, bonne continuation. Bon huitième de finale à toi, Yann, et à tous nos auditeurs et auditrices.
Et bah, tout pareil. Hein.
Allez rêver devant le magnifique Suède-Ukraine sur M6.
Ouais, c'est ça. Non, non, Suède-Ukraine, c'est sur TF1, monsieur.
Ah ouais, quand même. Ah ouais.
Imagine Denis Brogniart avec le mag. Mais ce Suède-Ukraine. Sinon, l'équipe de France.
Ça va être ça. Ah là 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 là. Bye bye tout le monde. Non, je le ferai pas en suédois parce que je ne sais pas le dire en suédois. Par contre, je peux le dire en belge. Bye. Je dis bye une fois.
C'est ça. Salut Nico.
Ouais, j'ai la frite ce soir.